On peut croire ou ne pas croire, suivre une religion ou les rejeter toutes, quelles que soient nos convictions, comment rester insensible au dessin hors norme de Thérèse, petite fille de Normandie? Ce qu'elle est devenue aujourd'hui pour des croyants du monde entier, pour les 500 millions de lecteurs de ses mémoires à travers la planète, pour le simple pèlerin qui vient dans cette basilique de Lisieux chercher sa protection. Bref, ce qu'elle représente pour tant de gens nous interroge et appartient aussi à notre histoire. Tout commence dans cette région de la France rurale de la fin du 19e siècle. Thérèse est la fille d'une famille modeste d'Alençon, les Martins. Le père est horloger, sans histoire, une famille de 5 enfants, catholique et pratiquante, comme on en voit beaucoup à cette époque-là. Dans ce décor banal, une petite fille dont la vie sera courte, entrée au couvent à 15 ans, elle y meurt à 24 ans, va devenir l'une des saintes les plus populaires du catholicisme. Sainte Thérèse de Lisieux. Ce sont les fidèles qui construisent l'impressionnante basilique qui reçoit plus de 800 000 visiteurs par an. Thérèse aura une vie intense qu'elle a choisie passionnément. Et vous allez voir que d'Alençon à Rome, en passant par Bayeux, Lisieux, Venise ou Bologne, c'est un chemin hors du commun. Avant elle, la sainteté semble une affaire d'héroïsme, d'action extraordinaire, comptabilisée par un dieu justicier. Thérèse, elle, propose du fond de son couvent une petite voie toute droite pour aller à Dieu, faite de gestes d'amour tout simples. La sainteté à la portée de tous, en quelque sorte. À 14 ans, avec son père Louis Martin et sa sœur aînée Céline, Thérèse part en pèlerinage à Rome. Elle n'a qu'un but, rencontrer le pape Léon XIII pour obtenir de lui l'autorisation d'entrer au Carmel, bien avant l'âge, dans l'un des ordres religieux les plus austères.
Vous écoutez Secret d'Histoire, Thérèse, la petite sainte de Lisieux. Première partie.
Le 20 novembre 1887, un groupe de 197 pèlerins, civils et hommes d'église venus de Normandie se dirige vers la basilique Saint-Pierre. Pour Thérèse, c'est le grand jour.
On arrive donc au sommet de son voyage à Rome, cette entrevue tellement attendue avec le pape.
Hélène Mongin, biographe.
Tous ses espoirs sont focalisés sur ce moment. Elle va déjà à la messe avec le pape.
Le pape étant habillé en blanc, le protocole ne permet pas, sauf aux reines catholiques, d'être habillé de blanc devant le pape. Donc Thérèse a un vêtement noir, elle a une mantille sur la tête, parce qu'il faut avoir la tête couverte.
C'est une belle jeune femme, elle fait environ 1m60, ce qui était très grand pour l'époque, c'est la plus grande de sa famille. Elle a les cheveux châtains, les yeux pairs, c'est-à-dire bleu-vert, et puis un sourire que les photos ne nous ont pas rendu, mais qui paraît-il était extraordinaire.
Elle a un visage qui a gardé les marques de l'enfance, un visage assez doux, rond.
Elle a un regard droit, un regard lumineux, un regard qui vous prend.
Et toujours cet air à la fois très doux, est très décidée.
Arrive le moment tant attendu. Nous sommes dans la salle du trône du Vatican. Grande procession.
Tous les pèlerins sont appelés les uns après les autres à s'agenouiller devant le pape.
Chaque pèlerin s'incline, embrasse la mule du pape, sa chaussure, embrasse l'anneau de Saint-Pierre. Suite à quoi, le pape, Léon XIII, bénit le pèlerin.
Alors la première réaction de Thérèse quand elle voit le pape, c'est « il est tellement vieux qu'il a l'air mort ». Ce qui ne la décourage pas. Par contre, ce qui va manquer de la décourager, c'est que l'audience se prolonge, et l'abbé Révéroni, qui accompagnait le pèlerinage, fait dire à tout le monde « personne ne parle au pape, on reçoit juste sa bénédiction ».
Thérèse ne sait plus trop quoi faire, est-ce qu'elle va parler au pape, puisque Monseigneur Révéroni a dit « interdit absolu de parler au pape ». Et Céline lui dit « parle quand même ».
Thérèse avance, tombe à genoux au pied du pape et sans doute la voix tremblante d'émotion lui dit « Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, laissez-moi entrer au Carmel à 15 ans ». Elle a dû parler trop vite, le pape n'a pas compris. Il se tourne vers l'abbé Réveroni et lui dit « qu'est-ce qu'elle demande ?»
Le vicaire général, agacé de voir cette scène-là, dit au pape « c'est une jeune fille qui veut entrer au Carmel à 15 ans, mais ne vous inquiétez pas, ses supérieurs examinent l'affaire. »
Et la parole du Saint-Père tombe très tranchante pour Thérèse. « Faites ce que les supérieurs vous diront. »
Mais c'est pas ça qu'elle veut, Thérèse. Thérèse, elle veut un oui.
Elle a cette espèce d'urgence intérieure à vraiment pouvoir vivre sa vocation. Et donc, elle met tout en œuvre pour y arriver.
Elle n'a rien à perdre. C'est sa vie qui est en jeu, là. Hein.
Thérèse insiste, dotée d'une force de caractère assez étonnante dans cette situation-là. Elle insiste et elle dit au pape...
« Mais Saint-Père, si vous dites oui, tout le monde dira oui. » Et là, le pape plonge son regard dans les yeux de Thérèse.
Et le pape va faire cette réponse, qu'on a dit quelquefois être une réponse de Normand, vous en jugerez. « Vous entrerez si Dieu le veut. » Ça ne veut pas dire non, mais ça ne veut pas dire oui non plus. Et Thérèse, ce n'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait un oui franc et massif. Et elle fond en larmes.
Et Thérèse, à ce moment-là, est prise par deux gardes qui l'emmènent hors de la salle du trône.
Thérèse, après l'échec apparent de son voyage, ne se décourage pas. Elle reste dans la confiance, mais tout de même, c'est très dur. Et puis, finalement, ce qui va jouer en sa faveur, c'est que l'abbé Réveroni, qui avait accompagné tout le voyage, avait su se rendre compte de la nature assez exceptionnelle de cet enfant et de sa vocation. C'est sans doute lui qui parle à l'évêque. Et enfin, enfin, le oui tant attendu arrive.
Le couvent de Lisieux n'est pas un musée, c'est un Carmel vivant. Il abrite encore une communauté de 19 religieuses. C'est un endroit dédié à la prière et au silence. Et c'est une chance exceptionnelle d'être accueillie par les sœurs qui ont, paraît-il, un faible pour Secret d'Histoire. Thérèse Martin entre pour la première fois dans le Carmel le 9 avril 1888. Pour Thérèse, qui souhaite prendre le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence.
Le Carmel de Lisieux est un Carmel relativement récent qui a été fondé dans les années 1830. Au moment où Thérèse arrive, les bâtiments sont assez neufs. C'est un des plus petits Carmels de France, il fait à peine plus d'un hectare. Et c'est un lieu, même s'il est tout neuf, qui est, il faut se représenter à l'époque, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Il fait terriblement froid. Thérèse dira au Carmel, j'ai eu froid jusqu'à en mourir.
Au couvent, Thérèse doit désormais se couler dans la règle. Un ensemble de principes de vie précisés au XVIe siècle par la refondatrice espagnole de l'ordre du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila.
On ne sort pas. Donc ça veut dire qu'on est toujours avec les mêmes personnes tout le temps.
Frère Didier-Marie Gollet, biographe.
Et qu'on n'a pas d'autre horizon que celui qui est déterminé par le mur de clôture.
Dans le monde, on voit un monastère qui est fermé, où les sœurs ne sortent pas de cet enclos.
Sœur Marie, prieure du Carmel de Lisieux.
Pour nous, la clôture, c'est un espace où nous pouvons vivre la vie que nous désirons vivre. Un espace où cette relation au Seigneur peut être vécue à plein. Alors, il y a une règle, il y a des constitutions, mais à l'intérieur de ça, c'est la liberté.
C'est une communauté qui compte 26 religieuses, essentiellement des femmes de la région qui venaient de milieux paysans, assez pauvres. Beaucoup de femmes, en fait, sans instruction, comme beaucoup de femmes de l'époque.
On vit ensemble, mais dans le silence. C'est-à-dire qu'en dehors des 2 heures de récréation, on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'on se croise, on va se faire éventuellement un sourire, mais on n'est pas là pour se parler, sauf s'il y en a besoin pour le travail.
Le pari du Carmel, c'est de faire cohabiter des femmes les unes avec les autres.
Henri Quentin, écrivain.
Avec leurs petits travers, et les petits travers, ils apparaissent très très rapidement quand on a une vie communautaire en permanence.
On dit souvent qu'une des preuves que Dieu existe, c'est que 26 femmes dans un hectare ne s'entretuent pas. Donc c'est vrai qu'il y a une vie relationnelle extrêmement forte.
C'est effectivement un défi. C'est le défi de la fraternité. Et c'est un des aspects de notre vie qui est à la fois le plus difficile et le plus passionnant. Parce que aimer Jésus qu'on ne voit pas, on peut croire qu'on l'aime. Mais si je sors de ma prière et que la première chose que je fais, c'est de m'attraper avec une sœur que je rencontre, je peux me poser des questions sur ma prière. Donc, La vie fraternelle est un moyen de vérifier notre capacité d'aimer et de se laisser aimer.
Thérèse a un côté petite dernière. Elle est en effet la petite dernière dans sa famille. Et certaines religieuses vont avoir tendance aussi à la considérer comme une petite dernière, c'est-à-dire à une enfant à qui on a tout fait et qui est un peu malhabile. Elle est par exemple plus lente que les autres pour coudre, elle n'a pas l'habitude de coudre, elle n'a pas tellement l'habitude de balayer, elle ne le faisait pas beaucoup chez elle. Et certaines des sœurs, qui au contraire ont eu des vies plus rudes, considèrent que cette petite fille qui arrive là est très mignonne, est une jolie poupée peut-être, mais a un côté enfant gâté, peu dégourdi.
Quand Thérèse se fait traiter de grande biquette, je pense que ça ne devait pas facilement lui plaire. Il y a des petites allusions en récréation qui forcément les gratignent.
Tous les matins, Thérèse se lève à 4h45. Et le réveil est plutôt brutal.
C'est le réveil matin des sœurs du Carmel à l'époque de Thérèse. C'est-à-dire que vous avez une matraque. Et il y a une sœur qui est chargée de parcourir le couloir dans lequel dorment les sœurs, chacune dans leur cellule. Et elle les réveille avec ses très sympathiques. Quand elles ont entendu la matraque, elles se lèvent. Elles font un petit peu de toilette et elles s'habillent pour aller à l'oraison.
L'apprentissage de la vie religieuse est extrêmement dur sur le plan physique.
Antoinette Guise-Castelnuovo, historienne.
Notamment parce que vous devez tout réapprendre. Il y a une manière de marcher, il y a une manière de saluer, il y a des manières de communiquer, il y a un régime alimentaire qui est différent. Les rythmes de sommeil, les rythmes de vie sont totalement différents. Thérèse ne faisait pas son lit elle-même avant l'âge de 14 ans. C'était ses sœurs qui lui faisaient. On lui faisait tout parce que c'était la petite dernière. Donc, elle a tous ces aspects qui lui demandent des efforts.
Les carmélites quittent leurs cellules individuelles pour rejoindre le chœur afin de débuter leur journée par un temps de prière silencieuse d'une heure, l'oraison.
L'oraison, c'est une prière personnelle intérieure. C'est un petit peu comme ce qu'on appellerait aujourd'hui de la méditation.
C'est un temps où on se laisse regarder par le Seigneur, et chacune le vit différemment. Dans ce temps, il peut y avoir des temps d'aridité très grandes. Et la petite Thérèse dit bien que ces temps d'oraison étaient souvent très arides, pleins de sécheresse. C'est-à-dire qu'elle ne ressentait rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, qu'il ne se passe pas quelque chose, mais le sensible n'est pas là. Et Thérèse a beaucoup dormi à l'oraison, parce qu'il y avait très peu d'heures de sommeil à cette époque-là. Donc, le temps de la prière silencieuse, on est immobile dans le silence. Ben voilà, le sommeil arrive. Et...
Alors, au début, elle s'en fait quelques scrupules. Et puis, Thérèse, qui est toujours très maligne pour retourner les choses, dit « Mais je pense qu'un enfant qui dort fait autant plaisir à ses parents qu'un enfant éveillé. »
Elle a dessiné même un petit tableau, de manière un petit peu malicieuse, dans la chapelle du couvent, à côté du tabernacle. Des petits angelots et un angelot qui dort, où elle s'est représentée elle-même.
Au Carmel, tout se vit en communauté selon un emploi du temps très précis. Après l'oraison, les carmélites enchaînent les offices jusqu'à la messe, le moment le plus important de la journée. Mis à part une soupe en guise de petit déjeuner, le premier vrai repas de la journée a lieu à 10 heures.
Le repas au Carmel est un repas communautaire, en silence, pendant lequel l'une des carmélites, chacune à leur tour, lit une lecture pieuse, donc une vie de saint la plupart du temps. Globalement, une austérité, une simplicité, dans l'idée d'un esprit de pauvreté.
La cuisine des carmélites n'est pas une cuisine 5 étoiles, il faut bien le reconnaître. Alors déjà, il n'y a pas de viande. C'est des légumes, des féculents simples, un œuf, un peu de poisson parfois. Thérèse, par exemple, a souffert parfois de cette nourriture. Elle avait des maux d'estomac pendant tout son noviciat.
Elle ne disait pas « c'est bon, c'est pas bon »,« j'aime, j'aime pas ». Elle prenait ce qu'on lui présentait. Parfois, effectivement, on a le témoignage d'autres sœurs qui disent qu'on exagérait parce que comme on savait qu'elle ne se plaignait pas, ce que les autres n'auraient pas accepté, on le lui donnait tranquillement.
Alors chacune, on doit faire cet effort-là. Mais peut-être que chacune de nous n'est pas arrivée à la sainteté de Thérèse et que voilà, Il y a des murmures quelquefois sur la manière de cuisson des aliments.
À 11h, les sœurs se retrouvent pour une première récréation d'une heure où la parole est enfin permise.
Deux fois par jour, il y a ce qu'on appelle des récréations, qui sont des moments communautaires dans la seule pièce chauffée du Carmel, le chauffoir, où les carmélites se retrouvent, discutent entre elles. Thérèse est souvent, pourrait-on dire, une sorte de bout en train de la communauté. Elle raconte des histoires, elle imite. Par exemple, elle racontera le voyage qu'elle a fait avant d'entrer au Carmel à Rome, en imitant le guide italien qui parlait de cornichon au lieu de corniche, qui parlait de cupide au lieu de cupidon. Et une des sœurs de Sainte Thérèse, carmélite avec elle, disait... Elle pouvait à la fois nous émerveiller par la profondeur de sa prière et nous faire rire aux larmes dans ces temps de récréation.
L'été, les sœurs peuvent sortir dans le jardin. Elles vont souvent dans l'allée des marronniers qui permet l'ombre. Alors pendant les récréations, les sœurs emmènent toujours un travail. C'était souvent un travail de couture, de reprisage. Et donc les sœurs étaient un peu de chaque côté de l'allée, et face à face, et elles se rencontraient paisiblement.
Thérèse est une femme absolue et elle retrouve dans le Carmel ce sens de l'absolu. Elle dit qu'elle y rentre pour deux raisons, pour sauver les âmes et pour prier pour les prêtres, et avec ce désir d'être une grande sainte. On peut vivre une vie extraordinaire dans un quotidien extrêmement ordinaire, et il n'y a pas plus ordinaire que le quotidien du Carmel. Tous les jours la même chose. Donc vraiment, elle est concentrée sur l'essentiel en permanence et c'est là qu'elle va se déployer. Du coup, c'est une aventure intérieure.
Elle est vraiment à sa place au Carmel, parce que ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de vivre, c'est ce à quoi sont appelées toutes les carmélites. Donc en cela, elle n'est pas différente des autres sœurs.
Laurence Panontin, conférencière.
Mais elle va le vivre à sa manière à elle, mais avec une intensité qui lui est propre et avec une grâce qui lui est propre.
On ne devient pas une sainte par hasard. Thérèse Martin naît à 100 km de Lisieux, à Alençon, dans l'Orne, le 2 janvier 1873. Elle est la benjamine de 5 filles d'un couple très croyant, Louis et Zélie Martin. Chez Thérèse, vous allez le voir, la sainteté commence avant la naissance, dans une famille à la fois ordinaire et extraordinaire.
Quand ils se rencontrent, Louis et Zélie sont déjà des personnes mûres.
Ils atteignent 26 et 34 ans, vieille fille, vieux garçon hein, à l'époque.
Elle est dentelière, elle a un atelier, elle rassemble des dentelières et elle fait confectionner de la dentelle à Alençon, qui est vraiment le produit phare de cette ville.
Père Thierry Hénaud Morel, recteur du sanctuaire d'Alençon.
Quant à lui, il a choisi d'être horloger. Et donc il a son magasin en centre-ville d'Alençon.
Et un beau jour de printemps 1858, sur le pont d'Alençon, Zélie croise Louis. Elle est saisie par sa belle allure et la légende familiale raconte qu'elle aurait eu cette parole intérieure « C'est celui-là que j'ai préparé pour toi ».
3 mois plus tard, le couple se marie en l'église Notre-Dame d'Alençon.
Pendant presque un an, et ces deux êtres vont décider de ne pas se toucher. Ils décident de vivre leur mariage à la façon de Marie et Joseph, dans une chasteté absolue, en rendant grâce à Dieu pour cette rencontre, car ils vont vraiment profondément s'aimer.
Mais 9 mois plus tard, leur confesseur va leur expliquer que non, c'est pas ainsi qu'on vit réellement la vocation du mariage.
Et donc, il leur demande d'avoir des enfants et les encourage à avoir donc une relation amoureuse.
Et voilà, Marie va naître un temps plus tard. Et là, c'est ça, en fait, le basculement chez eux. C'est quand ils vont avoir leurs enfants, ils vont vraiment comprendre la beauté de leur vocation. Zélie dit, à ce moment-là, le monde ne nous était plus à charge. Moi, j'étais faite pour être mère. Et c'est ce qui a fait tout mon bonheur.
C'est dans cette maison bourgeoise du 50 rue Saint-Blaise à Alençon que vit désormais une grande famille qui comprend Marie, Pauline, Léonie et Céline. Elles attendent avec impatience l'arrivée de leur petite sœur. Le berceau est prêt. À 40 ans, Zélie sait que Thérèse sera sa petite dernière.
La plus grande épreuve que Louis et Ellie ont dû vivre va être la perte de 4 de leurs enfants. Donc on sait qu'à l'époque, il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée. Ils ont perdu un premier petit Joseph, un deuxième petit Joseph, et puis Hélène à 5 ans et demi, et ensuite une première petite Thérèse.
C'est après tous ces deuils qu'arrive Thérèse le 2 janvier 1873. Une naissance compliquée, car Zélie, qui souffre depuis quelque temps d'une grosseur au sein, n'est pas en mesure de l'allaiter.
Elle essaye de la nourrir dans un premier temps. Thérèse ne supporte pas ce lait qu'on lui donne.
Pendant 2 mois, Thérèse est nourrie au lait de vache coupé d'eau, ce qui l'amène aux portes de la mort.
Il n'y a pas de lait de substitution à cette époque-là. Donc il faut à chaque fois trouver une nourrice qui est en capacité d'élever un autre enfant en plus du sien, c'est-à-dire allaiter au sein.
C'est alors que Zélie pense à Rose Taillé, qui habite à Semalé, un petit village situé à quelques kilomètres d'Alençon.
Et c'est là qu'elle décide de braver tous les éléments, de traverser campagne et forêt pour arriver en pleine nuit, sachant que Louis Martin n'est même pas à la maison et qu'elle prend toute seule l'initiative parce que voilà, les éléments pressent et Zélie aime à la folie ses enfants. Rose Taillé, c'est la femme d'un journalier agricole, et donc en fait elle va prendre en charge cet enfant qui va demeurer dans cette humble demeure avec les 4 enfants de la famille Taillé pendant 13 mois.
Guy Fournier, diacre et adjoint au recteur du sanctuaire d'Alençon.
Et c'est chez la famille Taillé que Thérèse va faire ses premiers pas le 9 janvier 1874.
Au bout d'un an, Thérèse retourne chez ses parents qui découvrent le caractère bien trempé de leur fille.
Thérèse a beaucoup de tempérament. Elle est colérique, elle sait exactement ce qu'elle veut.
Damien Thomas, secrétaire général du sanctuaire d'Alençon.
Ça a bien secoué Zélie. Plusieurs fois, elle en parle dans la correspondance, cette petite qui se roule par terre de colère. Apparemment, c'était très marqué chez Thérèse. Louis et Zélie font le choix de la douceur, de la tendresse, le choix de l'amour. Et d'ailleurs, les filles l'écriront après. Thérèse le dit dans Histoire d'une âme, « Toute mon enfance, je me suis sentie aimée ».
C'est une famille où on se dit beaucoup, que l'on s'aime, on se le redit, on se le montre de mille manières. Il y a une tendresse très forte qui les unit tous.
Afin d'être plus proche de ses enfants, Louis prend une décision particulièrement moderne pour l'époque.
L'entreprise de Zélie faisait vivre 15 familles un peu partout dans Alençon. Louis se dit plutôt que moi continuer mon activité d'horloger qui ne fait vivre que moi, eh bien je vais fermer mon horlogerie, et pourtant Dieu sait qu'il y tenait à son horlogerie, et je vais aider ma femme, et ça permettra encore à 15 autres familles de continuer à avoir une subsistance. Un homme qui abandonne son activité pour se mettre au service de celle de sa femme, ça resterait encore aujourd'hui assez étonnant, donc pour l'époque c'est complètement hors norme.
Entrepreneur soucieux de justice sociale, Louis et Zélie Martin sont proches de leurs employés. Et Zélie n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour assembler ses pièces de dentelle, dont les grands couturiers sont particulièrement friands.
Et on voit là que les Martin ne sont pas prisonniers de leur milieu. C'est un couple qui a bien réussi, qui est bien introduit dans le milieu de la bourgeoisie. Mais tout au long de leur existence, on constate dans beaucoup de choses qu'ils ne se laissent pas enfermer dans certains codes sociaux. Ils sont libres intérieurement.
Pour Zélie et Louis, la réussite sociale n'est pas l'essentiel. Dans leur jeunesse, tous deux ont été tentés par la vie monastique, sans parvenir à réaliser cette vocation. Et dans l'éducation qu'ils transmettent à leur fille, cet idéal de vie les influence en profondeur.
Le lundi, c'est journée porte ouverte, toutes les semaines, chez les Martin. La porte est littéralement ouverte pour les pauvres du quartier et de la ville.
Dans cette cuisine étaient accueillis régulièrement des personnes nécessiteuses, ce qu'on appellerait aujourd'hui des SDF, en fait, et qui recevaient un repas ici, des repas à emporter. Certains recevaient même des souliers de Louis. On voit ici vraiment au quotidien les filles Martin, et particulièrement Thérèse, peuvent regarder leurs parents et voir de leurs propres yeux que la charité chez leurs parents n'est pas en parole, mais en acte.
Il y a le soir, ce moment très particulier où les parents ou les sœurs aînées viennent faire la prière aux plus jeunes. Ça va devenir effectivement une espèce de rituel auquel Thérèse va être très très attachée.
C'est comme si Dieu faisait partie de la famille. Zélie en parle toujours comme d'un bon père et on a l'impression qu'il est limite assis à table avec nous. La foi transpire dans l'ensemble de la vie, que ce soit pendant les temps de travail, pendant les études. Dieu fait partie du paysage et il en est le centre.
Mais en décembre 1876, la vie tranquille de la famille Martin vole subitement en éclats.
On est à la veille de Noël 1876. Zélie a une douleur persistante au sein. Elle se rend chez le médecin qui lui annonce sans aucun ménagement qu'elle a une tumeur très développée et qu'elle va mourir à brève échéance. Zélie rentre chez elle, elle l'annonce à sa famille. Elle dira que c'était une scène de désolation. Il lui reste quelques mois à vivre, qu'elle va passer à vraiment organiser l'après elle, à préparer les grandes, à éduquer les petites, et puis à toujours redire à chacune de ses filles et à son mari à quel point elle les aime. C'est vraiment la chose qu'elle fera jusqu'au bout. Elle va connaître de très grandes souffrances et s'éteindre en août 1877. C'est un moment de traumatisme profond pour cette petite fille de 4 ans et demi qui va vivre la mort de sa mère comme un abandon.
Au lendemain de l'enterrement, Louis Martin décide de vendre l'entreprise familiale et de quitter Alençon pour s'installer non loin du frère de Zélie, Isidore Guérin. C'est désormais dans cette maison de Lisieux, les Buissonnets, que la famille va connaître un nouveau départ.
La famille Martin, à ce moment-là, se renferme un petit peu sur elle-même. À Alençon, ils avaient beaucoup d'amis, beaucoup de contacts par le travail et tout ça. Louis cesse son travail pour s'occuper exclusivement de ses filles et ils vont vivre un petit peu en autarcie, dans la petite maison des Buissonnets, en ne fréquentant quasiment exclusivement que les Guérin. Thérèse se renferme complètement sur elle-même. Elle, qui était si épanouie, devient complètement introvertie.
C'est une fille timide, pleurnicheuse, qui se sent extrêmement mal en société, qui n'arrive pas à se séparer de ses sœurs.
Donc c'est une enfant profondément traumatisée, extrêmement fragile, qui a perdu sa force d'âme, comme elle disait, qui a perdu sa joie de vivre, qu'elle ne retrouve un tout petit peu que dans le cadre extrêmement fermé de sa famille, de son père et de ses sœurs.
Elle va reporter tout cet amour qui est brisé, tout cet élan qu'elle avait pour sa mère, sur sa grande sœur Pauline, et elle va lui dire « Voilà, c'est toi qui seras ma maman désormais. »
Dans le quotidien des Buissonnets, eh bien, il y a les cours du matin qui sont donnés par Pauline à Thérèse, qui va donc faire toute sa première éducation. Pauline elle-même avait suivi de bonnes études à la Visitation du Mans. Elle se révèle une excellente maîtresse. Et donc, du coup, Thérèse passe les matinées avec sa mère de substitution. À la fin de la matinée, il faut qu'elle ait les meilleures notes possibles, sinon ça se finit par une crise de larmes.
L'après-midi, Thérèse partage des moments privilégiés avec son père. Ensemble, ils effectuent de longues parties de pêche dans la campagne autour de Lisieux.
Il y a une grande affection entre Louis Martin et toutes ses filles, et en particulier avec Thérèse, qu'il appelle sa petite reine. Elle l'appelle « mon roi chéri ». Dans ses écrits, Thérèse dit que pour savoir comment prient les saints, il lui suffisait de regarder son père prier, par exemple. Il est très attentif, très attentionné, très affectueux avec ses filles.
Un soir, alors que son père est absent de Lisieux, Thérèse, âgée de 6 ou 7 ans, se trouve au deuxième étage des Buissonnets. C'est alors qu'un incident surprenant se produit.
Elle est près de la fenêtre et tout d'un coup, elle voit une silhouette qui passe dans le jardin. Elle reconnaît bien la silhouette de son père, mais c'est une silhouette qui est très courbée, qui avance lentement, péniblement, et dont le visage est recouvert par un linge. Thérèse est saisie, elle appelle son père, elle crie « Papa, papa !» Marie entend ça, elle qui est au rez-de-chaussée, elle monte tout de suite à l'étage, et quand elle arrive, il n'y a plus personne dans le jardin. Ils vont chercher dans tous les coins de la maison, le père n'était pas là, personne n'était là.
Quelques mois après cette apparition énigmatique, Thérèse, qui a désormais 8 ans, quitte pour la première fois le cocon familial. Elle fait son entrée à l'école des sœurs bénédictines de Notre-Dame-du-Pré, en demi-pension.
Elle était très en avance sur son âge grâce à l'éducation de Pauline, donc on la met dans une classe qu'avec des filles plus grandes qu'elle, et pourtant elle est bien meilleure en classe, donc elle suscite des jalousies. Pour elle, c'est vraiment un temps d'épreuve où elle souffre beaucoup, elle n'arrive pas à jouer avec les autres enfants.
Il y a dans sa classe une élève de 14 ans, assez pataude, pas très éveillée, qui va réunir autour d'elle toutes les autres enfants pour s'en prendre à Thérèse. Et Thérèse va découvrir, pour la première fois de sa vie, l'hostilité des autres.
Et en bonne victime de harcèlement scolaire, Thérèse n'ose pas en parler dans sa famille. Donc l'école, pour elle, est une expérience réellement traumatisante.
Au même moment, la famille Martin vit une petite révolution. Pauline, la seconde fille, s'apprête à devenir religieuse.
Tout le monde oublie de prévenir et d'informer la petite Thérèse que sa grande sœur, qui est sa seconde maman, va la quitter.
Elle passe dans le couloir et elle entend entre deux portes Marie et Pauline discuter de l'entrée prochaine de Pauline au Carmel. Quand elle était petite, Thérèse avait entendu dire que Pauline serait religieuse. Alors Thérèse avait dit « Moi aussi, je veux partir avec toi, tu m'attendras. » Pauline avait dit oui. La promesse est rompue, elle l'apprend par surprise, c'est sa seconde mère qui part. Pour Thérèse, c'est un drame absolu.
Elle a l'impression que sa vie est terminée et pour la deuxième fois, elle éprouve le grand choc de la rupture. Et quand Pauline rentre au Carmel, elle est totalement désemparée.
À partir de là, elle commence à avoir des maux de tête, à être fatiguée. Moi, je pense qu'on peut parler d'état dépressif. Et puis, un beau jour, elle passe la soirée chez tonton Isidore, qui la prend sur ses genoux et se met à lui parler de sa mère, lui raconte Zélie, la jeunesse de Zélie. Et là, Thérèse se met à trembler. Elle est prise de fièvre et elle entre dans ce qu'elle a appelé plus tard son étrange maladie.
C'est-à-dire qu'elle va commencer à avoir de la fièvre, des hallucinations, des espèces d'évanouissements. Elle ne peut plus manger et il faut l'aliter, elle perd des forces.
Les médecins de l'époque auscultent Thérèse et disent que c'est une maladie très grave, mais qu'on n'a jamais vue chez un enfant.
Claire Houy, directrice de la maison des Buissonnets.
Ils ne savent pas comment l'appeler, comment la soigner, il n'y a rien à faire. Et Thérèse est tellement mal que le soir de la Pentecôte 1883, elle a 10 ans, elle ne va pas bien du tout, elle ne reconnaît plus sa sœur Marie. Et donc ce sont ses sœurs qui vont se mettre à genoux, donc Marie, Léonie et Céline, qui vont s'agenouiller et se tourner vers la statue de la Sainte Vierge et qui vont supplier la Sainte Vierge de faire quelque chose et de guérir Thérèse. Et là, Thérèse nous le raconte dans ses écrits. « Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. Mais ce qui me toucha jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. » Il y a eu, ce que Thérèse dit, une manifestation de la Sainte Vierge. Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est... Ça, c'est le secret entre Thérèse et la Sainte Vierge. Mais Thérèse, en tout cas, a été guérie par ce sourire de la Vierge Marie. Elle a reçu cette force, cette assurance, cette confiance aussi de se relever et cette confiance qu'elle avait une maman au ciel qui ne l'abandonnerait jamais.
Guérie, Thérèse n'est pas pour autant sortie d'affaire. Elle est persuadée qu'elle a menti sur sa maladie et s'imagine qu'elle a inventé le sourire de la Vierge. Un épisode qu'elle qualifiera plus tard de « maladie des scrupules ».
Elle a l'impression d'être remplie de pensées mauvaises et elle va voir sans arrêt sa sœur Marie pour lui dire « j'ai mal fait ». Donc elle explique à cette époque qu'elle ne pouvait se regarder elle-même sans horreur. Son hypersensibilité vraiment la pousse complètement vers le bas.
C'est une maladie terrible pour celui qui l'a puisqu'il n'est jamais en paix dans sa relation à Dieu et dans sa relation avec lui-même.
Alors, il y a une heureuse parenthèse dans cette période si sombre de la maladie des scrupules, c'est l'époque de sa première communion, que Thérèse va vivre vraiment comme une expérience mystique.
La première communion, c'est, selon les termes de Thérèse, le premier baiser de Jésus à son âme. C'est le moment où, justement, elle comprend que le Christ sera son époux.
Une véritable rencontre, une fusion avec Jésus, dit-elle. Nous n'étions plus deux, nous n'étions qu'un. Jésus m'a regardé. Ce fut le premier baiser de Jésus à mon âme. Donc elle vit une expérience extrêmement forte. Ce Dieu vers lequel déjà elle aspirait de tout son cœur qui vient à sa rencontre.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.